Merci d'avoir bravé le froid. C'est donc la dernière séance. Avant de l'aborder, je voudrais vous signaler deux choses. Les ouvrages auxquels je me réfère, certains d'entre eux, du moins, je n'ai pas tout mis, sont maintenant sur le site, sur mon site. Vous pouvez donc les consulter. Et j'ai regroupé les ouvrages par chapitre, ça veut dire par thème. J'en ai pas mis beaucoup à chaque fois parce que ça m'a pas paru complètement nécessaire. Je ne dis pas que c'est l'essentiel qui s'y trouve, mais c'est ce qui est le plus près du sujet que j'ai traité à chaque fois. La deuxième chose, c'est les séminaires. Les séminaires auront lieu l'un le 24 mai, l'autre le 1er juin, à chaque fois dans l'après-midi. Je pensais faire, pour ces séminaires, des visites en même temps de jardin. Bon, il s'avère que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas parler à un nombre important de gens dans un espace comme celui-là, comme cela. Les premiers, seulement quelques-uns, entendent ce que l'on dit et les autres, pas du tout. Et donc, j'ai décidé autrement. Le premier séminaire aura lieu ici. Et le second aura lieu dans l'amphithéâtre du musée du Quai Branly. Puis ensuite, d'une façon libre, on pourra se trouver dans le jardin. Voilà donc ce que je voulais dire comme précision pour ces deux choses-là. Avant de commencer, je vous lirai deux extraits qui ont de l'importance pour ce sujet d'aujourd'hui. Et vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce thème un peu particulier de paysage et cosmologie. Cosmologie, c'est-à-dire la façon dont on imagine le monde. Je disais en dernière image la dernière fois, la façon dont on imagine le monde a une répercussion immédiate sur la façon dont on s'en occupe. Et la façon dont on s'en occupe, ça a à voir avec comment on le jardine. Comment on jardine ce jardin planétaire, comment on l'habite, et quel paysage il en résulte. On a vu qu'il y avait, à partir de l'économie, et nous n'avons pas abordé toutes sortes de modèles économiques, seulement un qui nous concerne en Occident plus que les autres, l'émergence de paysages particuliers, qu'il s'agisse de paysages industriels, touristiques ou agricoles, artisanales ou agricoles industrialisées. Il s'agit de choses qui nous concernent directement et qui nous interrogent chaque fois que nous avons un projet à établir sur un territoire. En quoi les cosmologies pourraient-elles avoir une influence sur le paysage? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qui est important pour moi, c'est de relier les deux, c'est-à-dire quelque chose qui touche à la matière, au développement de celle-ci, à la croissance de la question matérielle, à l'usage de celle-ci, et puis à l'immatière, c'est-à-dire au fond, au domaine de la spiritualité, à la puissance des mythes, à la croyance, aussi bien qu'à la créativité. Donc deux domaines qui opposent d'une certaine façon quelque chose de concrètement représentable et quelque chose pour lequel il faut beaucoup d'imagination afin de pouvoir le représenter, puisqu'il s'agit de fantasmes, il s'agit des puissances de l'imaginaire. Et ces deux choses-là, d'une certaine façon, se trouvent mises en péril ou en discussion par ce que moi j'appelle l'avènement de l'écologie. Il ne s'agirait pas de dire que l'écologie abolirait l'économie comme elle abolirait la cosmologie ou les cosmologies, ça n'a pas de sens. Mais simplement, elle met en péril ce qui est actuellement en vigueur. L'écologie nous apprend, à cause des principes de finitude, qui sont en fait des constats, que nous devons inventer un modèle économique nouveau. L'écologie et la science qui va avec nous met en situation de considérer nos cosmogonies de façon différente, ou en tout cas de les accepter toutes et de ne pas en privilégier une. Sans doute, ce serait la solution la plus sage. Alors justement pour ça, je voudrais vous lire deux textes. L'un qui est de Philippe Descola. Philippe Descola est un anthropologue bien connu, je ne veux pas tout le monde le connaît, donc faire son curriculum. Il m'a invité ici, c'est grâce à lui que j'ai pu faire ces exposés avec vous. Et dans un catalogue qui est plutôt un ouvrage, vraiment un livre, qu'un catalogue à proprement parler, qui concerne l'exposition faite l'année dernière au musée du Quai Branly, qui s'appelle « La fabrique des images », il parle des quatre grands principes ontologiques, qui sont en fait des modèles cosmologiques, que je vais aussi aborder là. Je me sers de cette construction en le mettant dans un autre ordre pour relier la question cosmologique au paysage. Je les ai mis, moi, dans un ordre qui privilégie l'animisme, en tout cas le met en position antérieure, mais pas forcément dans la chronologie. C'est quelque chose de très ancré dans l'humanité, peut-être encore même aujourd'hui. L'animisme, c'est une âme portée à tout ce qui vit. Par conséquent, l'être vivant, qu'il soit une plante, un animal, peut se trouver dans certaines civilisations. J'emploie le mot à dessein. peut se trouver en équivalence. Par exemple, on peut dire, voilà, ce chêne ou cet arbre est un homme déguisé en arbre ou alors en puma, puisqu'il y a un puma qui arrive là. Donc il y a une équivalence qui me paraît, moi, très intéressante dans le discours, d'ailleurs, général de l'écologie. Donc je commence par ça. Je pense qu'il est bien d'aborder tout de suite après la vision naturaliste qui est la nôtre, qui est celle qui forge notre civilisation et qui commence avec ce moment où le mot « nature » est proposé par la civilisation grecque ancienne. C'est Isabelle Stengers qui évoque beaucoup cette question pour dire, eh bien voilà, nous allons étudier quelque chose qui est à distance de nous. Nous ne voulons plus que ce soit le privilège des dieux et que ce soit soumis à la superstition. C'est donc tout à coup un objet que l'on peut observer objectivement. Cette objectivation va conduire à une distanciation de plus en plus grande jusqu'à notre époque, mais l'écologie remet ça en discussion. Devons-nous nous trouver si distants de ce monde vivant ? Le troisième ontologie, c'est l'analogie, qui est quelque chose que je trouve très partagé dans le monde, le raisonnement, le processus analogique, qui nous amène à déduire, chez nous, nous avions, d'un point de vue de notre civilisation propre, quelque chose de très clair dans ce domaine, le partage, la théorie des signatures, c'est-à-dire comment une plante qui a telle forme, je citais la pulmonaire, parce qu'elle a des taches sur son feuillage, va renvoyer au poumon et par conséquent à la possibilité de les soigner. Et dans les jardins botaniques primitifs, plus anciens, en tout cas chez nous, les usages se faisaient pour des raisons, que je l'ai déjà dit, qui sont des raisons strictement médicales. Donc ça, c'est une lecture analogique des choses. Et elle est encore aujourd'hui, à mon avis, assez vivace. Et elle ne concerne pas seulement le monde asiatique, qui est très marqué par ça, mais sans doute d'autres modèles de civilisation. Et puis le totémisme, je terminerai par ça, parce qu'il est le plus singulier. Il est le modèle qui correspond, vous savez, à une sorte de filiation qui transgresse complètement les mondes divers que sont les animaux, les végétaux, les humains et le reste, qui fait que par une sorte de filiation verticale, on peut se trouver sous la domination du tatou ou de quelque chose d'autre, de l'ours. Là, on connaît les modèles nord-américains, les Indiens, mais surtout les Australiens, les aborigènes. Alors, ce que dit Philippe Descola dans cet ouvrage, le fait pour un biologiste de consulter à l'occasion son horoscope, entre parenthèses, une inférence analogiste, ou de parler à son chat, une inférence animique, ne retire rien à sa conviction que les cellules qu'il étudie n'ont pas d'intériorité et qu'elles sont régies par les mêmes mécanismes généraux, quels que soient les organismes auxquels elles appartiennent. Une inférence naturaliste. Autrement dit, on peut être tout ça à la fois. Il n'y a pas le totémisme là. Mais enfin, avec un peu d'effort, on y arriverait. Je trouve ça très intéressant parce que c'est une des possibilités de la nature généreuse humaine. Il n'y aurait pas qu'une seule façon de voir les choses. L'autre texte que je veux lire ici est en rapport direct avec le dernier sujet, l'économie. Il est de Patrick Vivray, qui est un ancien commissaire aux comptes, un philosophe, un politologue aussi. Et il a fait circuler, il n'y a pas très longtemps, sur le net, un texte, un manifeste d'ailleurs, que j'ai trouvé très, très éclairant. Et j'en tire un tout petit extrait, parce que c'est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. « L'un des fondements de la démocratie que les marchés ne supportent plus est la division ou la pluralité des orientations, pourtant inhérente au processus démocratique. Ils exigent donc partout des règles d'or et des gouvernements d'union nationale dirigés par des techniciens. La gestion dynamique de la divergence, qui est un fondement démocratique, n'est plus compatible avec la logique financière. Si on laisse cette logique s'imposer, on en arrive donc à ce qu'a décrit le prix Nobel hétérodoxe Paul Krugman. Pour lui, nos programmes d'austérité sont l'équivalent des sacrifices humains chez les Mayas. » Intéressant. Il faut analyser la crise actuelle à travers les catégories d'une crise de foi, donc d'une crise religieuse, pas seulement d'une crise de confiance. Nous sommes dominés par un socle de croyances et de crédulité conduisant à penser que face à ces nouveaux dieux courroucés que sont les marchés financiers, nous n'avons d'autre choix que de les rassurer avec des sacrifices, et des sacrifices humains. Chaque annonce d'un plan d'austérité, etc., etc. Donc ça m'a paru très juste, et je trouve important de signaler qu'il serait extrêmement dangereux de s'inféoder à une seule vision du monde. Alors je vais maintenant montrer les images et commenter, pour commencer, un lieu extraordinaire qui, le Mont-Saint-Michel, on peut faire la nuit. Non, pas. Bon. Alors, c'est pas grave, j'espère que vous voyez quand même. Non, vous voyez pas. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières ? Merci beaucoup. Nous avons eu à faire une étude sur ce site extraordinaire, un des plus visités de France, vous savez, à une époque où il était question, et toujours, le projet se succède là-dessus, de supprimer l'accès, donc ce projet, l'accès direct, qui favorise l'ensablement de la baie du Mont-Saint-Michel. En réalité, il n'y a pas que ce facteur de la digue, qui est un objet mécanique qui relie l'île au continent, il y a d'autres raisons. Mais l'image montre un projet avec un pont, la suppression de cette digue, et enfin, peu importe, je vous montre ce lieu simplement parce qu'à l'origine, il est un lieu mythique, il l'a toujours été, avant que la chrétienté ne s'installe ici, et c'était un lieu de pèlerinage, ce que l'on en sait du moins, honorant Gargantua. Pour nous, Gargantua est un personnage de Rabelais. Gargantua, en réalité, est une création très ancienne qui génère dans le paysage français, un peu partout, et ça c'était les Celtes qui le faisaient véhiculer, ces idées, énormément de paysages remarquables, en particulier les mottes, les crevasses, les montagnes, et bien entendu le Mont-Saint-Michel. On attribue d'ailleurs la Tomblaine, qui est un rocher isolé dans la baie, comme étant le tombeau de Gargamel. Et par conséquent, on est dans la famille de Gargantua. Ceci veut dire que, avant même que s'installe ce qui est la fantasmatique religieuse, la croyance, quelque chose qui ensuite génère des rites, devient une vraie religion, il y a eu encore, et c'est presque toujours comme ça que ça se passe, quelque chose d'autre qui est du même ordre et qui est la puissance des mythes. Donc les cosmologies dont on va parler là se superposent parfois. C'est-à-dire qu'il y a des visions qui viennent s'appuyer l'une sur l'autre, sacralisant les lieux et dans bien des cas, les protégeant. Pas toujours, mais assez souvent. Voilà d'ailleurs un paton. La photo est prise depuis la butte de Nansoutil. Nous sommes en Bourgogne et nous voyons devant nous un paton, c'est-à-dire un relief qui est créé par la boue de la chaussure de Gargantua quand il marche. Et les patins de Gargantua existent sous ce nom de patins en Brenne. Mais enfin, par toute la France, vous avez un vocabulaire qui se rapporte directement au relief, au paysage, et qui le marque localement. Alors évidemment, cet endroit-là, qui s'appelle le mont Ligaud, vu depuis Nansoutil, a eu d'autres noms. Mais au sommet de celui-ci, comme au sommet de la butte de Nansoutil, il y a même encore aujourd'hui quelques cérémonies vaguement païennes qui sont en rapport avec des rites très anciens. La butte sur laquelle on se trouve, Nansoutil, a porté le nom de la Beufrie, qui était le nom de la femme de Gargantua, et puis le Beufnie. Et puis, le monde chrétien arrivant, ça n'a plus pu conserver ce nom-là. C'était impossible. Vous voyez, se référer à un géant qui monte sur son cheval, dont la queue enlève par son seul battement toutes les forêts et ça devient la Beauce. C'est ça, hein, l'histoire de Gargantua. Ça génère vraiment des paysages. C'est pas rien. On ne pouvait pas continuer à ça. Il fallait croire à d'autres vérités ou d'autres mythes. Ça dépend de qui le dira. Et donc, ça change de nom et ça s'appelle le Mont-Dieu. Puis, finalement, ça s'appelle la butte de Nansoutil à partir de la République. Vous voyez, donc, ça va peut-être revenir à bientôt d'autres noms. Et donc, on va s'en occuper de façon forcément différente. Aujourd'hui, ce sommet continue d'être sacré. Voilà notre Gargantua, une illustration de Gustave Doré, qui est en train de manger un plat fabriqué à partir de pèlerins. Vous pouvez faire des choses comme ça, vous voyez. Alors, le premier... Tout ça, c'est une mise en place, c'est une introduction sur cette série, les quatre grandes catégories que définit Philippe Descola. Le monde animiste, c'est extrêmement difficile pour moi de vous montrer un paysage qui corresponde à ça, parce qu'en réalité, on est si lié à ce qui nous entoure qu'il n'y a pas de fabrication particulière qui nécessiterait qu'on mette quelque chose à l'œuvre pour parler de cette question. Mais je montre quand même un paysage déboisé du Nicaragua dans un pays qui est encore aujourd'hui habité par les Indiens Rama, avec un arbre qui a été laissé parce que c'est un arbre sacré et toute la forêt a disparu. Mais le vrai paysage de cette vision animiste de ces Indiens, c'est la forêt. La totalité des espèces qui a un rapport intime et direct avec la totalité des humains de leur point de vue. Si cet arbre est resté, c'est un ceiba, c'est-à-dire une plante qui se rapproche des malvacées, des bombax, enfin aussi des baobabs. C'est un fromager, c'est une plante qui n'a pas énormément de valeur par ailleurs. Et historiquement, elle n'a jamais été beaucoup utilisée, ce qui a favorisé sans doute son statut. En voilà un autre d'ailleurs ici. Donc c'est assez difficile de le représenter, sinon voilà, nous sommes dans un monde ici où l'être humain peut parlementer avec chacune des espèces en présence et on ne voit que des plantes. On est au Vanuatu, mais on pourrait être ailleurs et on pourrait aussi y montrer les animaux, on serait dans ce même rapport. Dans le livre d'Éric Julien, qui a été sauvé par les Indiens Kogi, qui sont des animistes un peu rigoureux d'ailleurs, avec une forme ascétique de leur façon de vivre au quotidien. Et donc, il montre toutes sortes de choses à ce propos, ce livre qu'il a fait un peu en leur honneur. Et c'est pour eux, quand ils parlent de la terre et des êtres qui l'habitent, ils s'adressent à nous en disant les petits frères, c'est nous les petits frères, quand allez-vous cesser de nous faire mal, en quelque sorte. Faire mal à la terre, c'est nous faire mal. Et Sarah Yacour résonne de la même façon et beaucoup d'autres dans ce monde-là de ces Indiens animistes. Il existe une pierre sur laquelle est écrite une histoire pour ceux qui savent lire et seulement les mamous qui sont des initiés peuvent aller voir, et encore pas tous, et comprendre ce qui se passe, le sommet de la pierre expliquant des choses qui sont plus en rapport avec l'esprit tandis que les bases plus en rapport avec la matière. En tout cas, c'est une forme de création du monde qui est écrite ici. Ça rassemble le cosmos. les voilà en train de grimper. Vous voyez, ça vous donne l'échelle de ces pierres sculptées qui sont là depuis extrêmement longtemps dans ce paysage. Alors pourquoi je vous montre aussitôt le jardin du musée du Quai Branly? C'est simplement pour faire la relation avec notre profession. Et évidemment, on est aujourd'hui au XXIe siècle, et qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Le musée du Quai Branly abrite des objets de civilisation qui sont originaires de toute cette couronne tropicale et d'ailleurs aussi, mais où la part animiste joue un rôle important, comme les autres que j'ai cités tout à l'heure. Et d'ailleurs, l'exposition La fabrique des images a eu lieu à cet endroit, et c'était très éclairant. Mais quand on a fait ce projet, j'ai travaillé là avec Jean Nouvel, je me suis bien demandé quel paysage on pouvait proposer pour ce sujet. Je ne dis pas ce bâtiment ou cet espace dans Paris, c'est ce sujet. C'est-à-dire comment on va avec le thème, avec l'idée, qu'est-ce qui fait sens? Et j'ai fini par faire la proposition d'un paysage non occidental, dans lequel il y a des éléments symboliques qui renvoient plutôt à l'animisme. D'ailleurs, on voit ici des gens qui parlent au canard. Hein. Là, ils sont dans, selon Philippe Descola, pas à leur chat, mais au canard, ils sont évidemment dans ce rapport-là. Nous sommes dans la limite de la rue de l'Université, qui est un bassin. Et voilà ces canards qui sont arrivés tout seuls. On ne les a pas installés. Ils se multiplient là. Et c'est la griffe et la limite officielle. Et le paysage est dominé par des espèces qui sont plutôt blondes, pas toujours tout le temps. Je dirais le vert est trop présent pour moi pour arriver à restituer ce que j'appelle être un paysage non occidental renvoyant à la savane arborée. C'est ça l'idée. Pourquoi ? Parce que les espèces pouvant pousser dans Paris qui reconstitueraient un paysage dans cette couronne, ça ne peut pas être une forêt tropicale humide. Donc il fallait que je m'oriente vers autre chose. Et donc c'est un paysage où le vert en tant que gazon canton avec les arbres dessus, vous voyez ce que je veux dire, n'existe pas. Il n'y a pas ce modèle dit occidental. Je fais un tour d'horizon rapide, on aura l'occasion peut-être d'y aller directement, à pied. La plupart des formes, à part celle-ci qui est une terrasse carrée, renvoient à un élément symbolique important qui est la tortue. On va voir pourquoi tout à l'heure. Mais la tortue, pour moi, et à cause des ouvrages que nous avons pu consulter, Nicolas Gilsoul, qui est ici présent, avait travaillé avec moi sur ce sujet, et grâce à lui, on avait trouvé une série de convergences sur cet animal qui, en Asie, est cosmophore. Elle porte le monde. Ce n'est pas rien de porter le monde. C'est un socle. C'est un animal qui vit très, très longtemps, et il n'est pas étonnant, finalement, que chez tous les peuples, ou presque, on se soit référé à lui. Et il ne veut pas toujours dire la même chose. Si ici, il est cosmophore, ailleurs, il sert de siège, ça c'est chez les Dogons, pour faire avouer les coupables lors d'un jugement, enfin, en tout cas, ouais. Ou bien il sert à donner la forme d'un campement chez des Indiens en Amazonie, et la queue de la tortue indique la rivière, mais on sait que chez les Indiens Hurons en Amérique du Nord, c'est pareil, ils se servent de ce symbole. Enfin, bref, il est absolument partout. Donc ça me paraissait intéressant d'avoir des formes plutôt organiques, d'une part, et plutôt renvoyant, même sans les donner de manière figurative, à ces éléments qui rentrent dans les mécaniques de l'animisme. Ça, c'est donc un bloc volcanique qui est ovale. On voit ici le jardin du musée du Quai Branly avec des terrasses ovales, on en retrouve là, et puis le restaurant Tortue qui est au sommet. Et puis l'autre élément figure en tant que symbole, ce sont des inclusions dans lesquelles il y a des animaux, des tests de carapace, des tests, ça veut dire carapace, soit de crustacés, soit d'insectes, soit des insectes qui sont pris dans la résine. Il y en a 300, malheureusement, avec le nombre de gens qui marchent dessus, ça finit par s'opacifier. C'était un jeu pour enfants aussi bien. Donc voilà le jardin tel qu'il est, et on va le voir de plus près, l'une des terrasses ovales qui renvoie au principe de la tortue, la terrasse du Chandi. Je reviendrai sur le terme de Chandi. On monte et on descend quelques marches. c'est un emprunt à une autre vision qui est dans une autre cosmologie en Indonésie. Et en principe, il y a de part et d'autre ici deux éléments verticaux qui sont sans linteau. La terrasse ici est ovale et elle est donc en voie à la forme de la tortue. Voilà. De même, l'ombrage de cette tonnelle, c'est comme une carapace surélevée, la tonnelle des roses lianes ou celle qui se situe près de la chênaie avec les écailles de la tortue. Aujourd'hui, elle va être recouverte parce que finalement, on a besoin le musée a besoin d'un abri pour les enfants, donc on ne verra plus exactement ces choses-là, mais on verra la même forme. Voilà, donc on a dans Paris un jardin, je ne dis pas qu'il est en relation absolue, totale, avec la cosmologie animiste, cette vision-là du monde, mais il a quelque chose à voir avec. Et vous voyez, même en hiver, ça donne un autre aspect qu'un paysage, les graminées, les grandes graminées, Miscanthus, qu'un paysage occidental. On est dans un autre monde. Ça, c'est l'installation de Yann Kersalé. La vision naturaliste. La vision naturaliste, elle est tout simplement marquée par le désir donc de tenir, et même de plus en plus fortement, l'homme à distance d'une nature qu'il va désirer maîtriser jusqu'à l'illusion de la maîtrise absolue. Un rêve de la puissance de l'imagination et de la technologie mêlée, de la science, etc. Sur cette image que j'ai déjà montrée, c'est la troisième vision d'Hildegard de Bingen. Ce qui est particulier, c'est que l'homme est au centre du monde, mais de l'univers plus exactement, et que tout vers lui converge, aussi bien le souffle que le feu, le froid, l'eau, les océans, les animaux, les plantes, et ainsi de suite. Il est donc au centre. C'est une vision qui est encore aujourd'hui, fonctionne encore dans l'esprit de certains, à savoir qu'on se trouve soit au centre, soit en domination d'un monde. Enfin, domination, je pense que là, on commence à savoir que ce n'est plus tout à fait possible. Donc, cette vision nous marque très profondément et on voit comment le paysage apparaît de façon progressive en se précisant, en se naturalisant, si entre guillemets, mais en se distanciant aussi. Et c'est ce tableau de Van Eyck. Il y a une précision donnée à ce paysage qui est quand même de l'autre côté. On n'est pas dans le monde des hommes. Mais il y a aussi, et ça c'est un dessin, une très belle peinture d'ailleurs, qui date du XIVe siècle, donc c'est quand même très ancien, il y a aussi une immersion dans le monde non humain avec un désir de la représentation. Jusqu'à quelque chose de plus précis, et vers le 18 et 19e, ça c'est un tableau de la fin du 18e siècle, avec un capybara qui est un animal typique du Brésil. Ici, on a une certaine précision, on arrive à la précision botanique. La nature à lire, je renvoie donc à l'un des exposés qu'on a vu ici. Et on en arrive avec notre actualité, si vous voulez, à une précision naturaliste qui met d'ailleurs en défend les espèces qui sont rares. Il faut pas seulement les isoler de nous, mais les mettre en protection. Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin d'elles pour des raisons que nous exploitons la diversité et nous en dépendons. Mais en même temps, on doit la protéger, la connaître, la dénombrer, lui donner un nom. On a abordé déjà toutes ces questions. Ça, c'est Welwitschia mirabilis, une plante qui vit dans le désert du Namib et qu'on a mis en prison. Parce qu'il ne faut pas aller la toucher, il ne faut pas l'approcher, elle est rare. Cela dit, elle se multiplie quand même là-bas. Hein. Mais elle est la plus vieille, elle a 2000 ans, ou plus peut-être. Et ce sont deux feuilles nées d'assises génératrices qui sont ici et qui, avec le vent, avec les oryx qui viennent de temps en temps, enfin là, ils ne peuvent plus venir parce qu'il y a un enclos, mais bon, se délitent et finissent par devenir comme des lambeaux. C'est une plante de la famille des éphédracées, une famille archaïque, c'est une plante tout à fait remarquable. Et le botaniste, pour la première fois, Welwitsch, qui s'est approché de ça, est tombé à genoux. Alors, c'est devenu Welwitschia mirabilis, admirable. On a donc aujourd'hui dans notre perception du paysage presque toujours quelque chose qui est dominé par ce que nous avons estimé comme étant le plus précieux, sacré. Et je montre cette image-là de la ville d'Oran, dominée par la montagne de Santa Cruz, où on avait certainement là bien d'autres rituels avant que les Arabes ne s'installent, puis les Espagnols, puis les Byzantins, puis finalement les Français, et pour finir par construire une église qui ressemble à la fois à une mosquée et à une église, et qui s'appelle donc Santa Cruz. Cette superposition, on la retrouve absolument partout. Les paysages marqués par ça, je le disais, sont donc, pour y dire, un village français dominé par une église, si vous voulez. Ailleurs dans le monde, la chrétienté marque son paysage traditionnellement de la même façon, mais d'une façon un peu plus particulière, là, le long du Jourdain, un endroit où on ne peut plus aller aujourd'hui, pour des raisons qui sont liées à la guerre, hein, tout simplement. C'est le lieu où on baptisait, et qui est aujourd'hui évidemment encore un lieu où les chrétiens viennent se faire baptiser, quel que soit leur âge. Au cours des pérégrinations, j'ai pu voir, comme tout le monde, tous ceux qui vont à l'île de la Réunion ou ailleurs, comment on a mis en scène le Saint-Expédite. Saint-Expédite était un militaire, un commandant romain en Arménie qui s'est converti à la chrétienté, qui donc a été condamné à mort pour cette raison-là. Mais qui est devenu expédite et qui donc expédie les vœux. Il a un rôle très considérable et il marque les chemins partout, par exemple, à l'île de la Réunion. Et puis ici, il est représenté en plusieurs figures. Donc tout ça constitue des micro-paysages ou des macro-paysages avec les constructions les plus sacrées, celle-ci, une des trois mosquées les plus importantes dans le monde de l'islam, l'esplanade des mosquées, le dôme du rocher. Ce n'est pas un hasard. Là se trouve aussi l'argile à partir de quoi Adam a été créé. On peut dire que Jérusalem est une sorte de paysage urbain cosmologique, avec une relation, bref, mais quand même dédié au monothéisme hein, aujourd'hui, et en guerre et malheureusement en difficulté, comme on le sait. Ça a donné lieu pour nous à quelques exemples de jardins remarquables. J'ai déjà évoqué les quatre fleuves du paradis qui sont dans la mythologie du monde de l'islam. Et on le retrouve presque systématiquement dans la composition des jardins. Celui-ci, c'est la cour des lions à l'Alhambra, donc un jardin hispano-mauresque. La vision analogique est une vision tout à fait intéressante. Elle est celle qui consiste, en somme, à faire se rapprocher par la forme, ça peut être par la sonorité, ça peut être par la couleur, des objets qui ne sont pas facilement rapprochables par la rationalité. C'est-à-dire que l'analogisme se détache du principe cartésien, si vous voulez, pour nous, si on voulait vraiment faire image, et renvoie à tout à fait d'autres choses qui sont beaucoup plus proches du monde artistique que du monde de la raison, l'un et l'autre étant compatibles, hein. Et donc cette image montre comment les signes du zodiaque sont affectés à différentes parties du corps, par exemple. Ça, c'est un processus analogique typique. Si je montre cette image du parc André Citroën, c'est parce que la construction des dessins à l'intérieur des jardins sériels dépend d'un processus analogique que j'ai proposé à l'époque. On m'a regardé avec des autres, on ne m'a pas regardé du tout d'ailleurs. Enfin, on se demandait ce que je racontais, si vous voulez. Et il s'agissait de trouver une manière de dessiner ces jardins-là. Ces jardins, d'un point de vue de leur emprise et de leur rythme, correspondent à l'épanelage que nous avait proposé l'atelier parisien d'urbanisme. On avait cette découpe de l'autre côté. Ça a ensuite été construit et nous avons tenté d'organiser notre parc avec Patrick Berger, avec l'architecte qui s'est occupé de cette partie-là. Ça a été un dialogue fructueux. Donc, tout ça étant posé, la composition principale que j'ai déjà évoquée dans son centre étant aussi bien posée, comment allait être le contenu ? Là, je me suis dit, puisqu'il y a sept espaces, en fait six en réalité, sept avec le jardin en mouvement qui est ici dans la partie vers la Seine, on peut aborder des questions qui sont liées, j'avais déjà dit, à l'état de l'eau, puisque nous sommes dans le cadre de ce parc qui, lui, contient les jardins et l'eau, mais de relier ces états de l'eau à quelque chose d'autre. Et alors, pourquoi pas reprendre le vieux dialogue, la vieille pensée alchimiste, qui dit que, en passant du plomb à l'or, on a chacun de ces éléments qui est un métal se trouve lié à une couleur, mais se trouve lié à une planète qui se trouve liée à plein d'autres éléments que l'on pourrait comme ça décliner dans un processus de correspondance. Et c'est ce que j'ai donc utilisé, ce qui fait qu'on voit ici le jardin numéro 1 étant le jardin en mouvement, c'est plutôt la mer figurée, c'est-à-dire quelque chose qui est ondulant et insaisissable. La couleur noire, je l'ai mise entre parenthèses parce qu'en fait, elle n'est pas présente. À chaque fois, il y a donc un état de l'eau, un métal évoqué, une couleur, un sens, une planète. Chaque fois, une planète renvoie à un jour de la semaine qui renvoie, si on le désire, au nombre atomique du métal évoqué. Ça m'a été utile pour une histoire d'éclairage. Donc, une scénographie pouvait être mise en place à partir d'un processus de analogique, comme ça, dans un système de correspondance. Vous voyez, alors, le jardin orange est associé au métal le mercure et figure le ruisseau. Le mercure, on ne le voit pas, on voit l'orange, on voit le ruisseau qui est en fait, je l'ai montré déjà, sans eau, mais qui représente effectivement, avec ses plages de galets, la figure d'un ruisseau. C'est effectivement un jardin qui est lié au toucher, et si on veut, on peut se dire, chaque jardin étant différent, eh bien on peut énoncer les jours de la semaine. Vous voyez, on voit le jardin doré, ça c'est l'or. Hein. Si chaque métal, on passe du plomb, on va à l'or, le jardin argenté, forcément à la couleur argent. Ce n'était donc pas un hasard, si vous voulez. Aujourd'hui, tous ces jardins, qui sont connus par leur couleur, recouvrent tout un tas de correspondances que les visiteurs n'ont pas du tout besoin de connaître. C'était utile juste pour moi, car ça me permettait de faire figurer quelque chose. C'est pour ça qu'ici, on a la fontaine, là, le ruisseau, ici, la cascade, là, la rivière, et finalement, ça s'évapore et ça revient à la mer. Vous voyez, ça me donnait la possibilité de faire un dessin. Voilà mon recours à l'analogie, mon recours personnel à l'analogie. Mais avec les nombres atomiques, on allait plus loin. Alors là, on a réalisé quelque chose qui n'a jamais été mis en service. Il y avait la possibilité, en utilisant le plus grand nombre correspondant... ici, si vous voulez, on peut revenir, voilà, correspondant à Saturne, au plomb, 82. On pouvait les installer en tant que diode. À l'époque, on ne parlait pas encore des LEDs, et les disposer sur la pelouse centrale qui fait 4 hectares. Et à chaque changement à minuit, à chaque changement de jour, on pouvait allumer un nombre de diodes correspondant au nombre atomique, c'est-à-dire au jour du lendemain. Ça ne s'est pas fait. C'était rigolo, mais c'était un peu compliqué. Mais ça s'est installé, c'est-à-dire que ça a été installé, ça n'a jamais fonctionné, parce que c'était compliqué à faire fonctionner, et surtout c'était plutôt à l'adresse des Martiens, vu que personne ne pouvait voir ça de haut, quoi. Il aurait fallu se mettre sur des éminents. En fait, si, on pouvait, mais en ouvrant la nuit. Tout ça s'était soumis à des conditions. Le parc est fermé la nuit, donc on a décidé finalement, il y a des questions d'argent, de s'arrêter là. Dans le baroque. La vision analogiste présente dans le monde asiatique, comme je disais, sur cette illustration, fonctionne aussi bien avec un principe d'immersion. Mais quand même, l'appel au paysage lointain qui vient dans un espace que l'on invite par une série de réductions, si vous voulez, à recomposer, c'est le bonsaï. C'est vraiment le principe d'un emprunt du lointain vers le plus près qui a à voir avec l'analogie. C'est sans doute plus compliqué que ça. Dans tous les, comme je vous le disais à propos du Mont-Saint-Michel et d'autres, il y a des superpositions. Par exemple, ici, nous sommes au Japon. Les kami qui précèdent, ce sont les esprits et qui peuplent les montagnes, presque toujours les éminences, donc les lieux sacrés, participe d'une croyance et non d'une véritable religion, mais enfin, en tout cas induisent un respect vis-à-vis d'un paysage particulier qui est une forêt, pas toujours d'ailleurs inutilisée, parfois elle est exploitée et appartient au Sakuyama, qui est cet ensemble de paysages-là qui est à la fois construit, bâti, utilisé, et une partie de cette forêt, comme je vous disais, aussi exploitée. Mais donc une autre réservée aux esprits. Nous avons eu à travailler en Chine sur le lac Tai avec l'architecte Philippe Jonathan, près de Suzhou, et ce lac, qui fait à peu près 50 km de diamètre, donnait de l'eau potable à 18 millions d'habitants à l'époque. C'était en 2003 ou 2002. Et donc, il doit y en avoir beaucoup plus aujourd'hui. Et il était question de faire une étude, qui s'appelait l'étude du jardin planétaire de Shanghai, sur cette périphérie, et de regarder comment on pouvait limiter l'eutrophisation du lac, c'est-à-dire sa pollution par l'industrie, par la surpêche. On a ici de la pêche. Il y a des espèces très singulières dans ce lac qui n'existent que là au monde. Il y a des endémiques. Il y avait donc une préoccupation, et ça venait beaucoup des intrants, d'ailleurs, des cultures de rizières en périphérie et donc de l'industrie. On a donc étudié tout ça, et puis on nous a promenés dans les lagunes et les reliefs. Et là, nous nous sommes trouvés en face de ces grandes carrières exploitées qui sont aujourd'hui des cicatrices importantes dans le paysage et qui jamais n'ont été bâties. Alors, c'est une singularité. Elles n'ont jamais été bâties parce qu'elles sont sacrées. C'est aussi le domaine des esprits. Mais alors, on les a quand même attaqués parce qu'on avait besoin de pierres. Donc là, c'est toute l'histoire. Même qu'est-ce qu'on fait à un moment donné ? Ben, on va quand même contre les dieux. Vous voyez, c'est tant pis. Et donc, on nous dit, comment feriez-vous pour les cicatriser ? Je ne pensais pas, je leur dis à ce moment-là, que ce soit une nécessité absolue de cicatriser. On peut peut-être les laisser comme un témoignage d'une activité dans le paysage avec sa figure. Là, sur ces sommets, quelques-uns se trouvent les cimetières, on le verra tout à l'heure, et les temples, les lieux de culte. Donc, je passe là-dessus, les portes de la lune, comment on franchit, qu'est-ce que c'est que la valeur initiatique du passage, comment on arrive au sommet, quels sont les temples, les hôtels, les lieux de culte, et les belvédères, mais qui sont aussi des lieux de méditation. Et puis, on nous demande, voilà un mauvais exemple pour nous, nous avons essayé de revégétaliser cette carrière-là, que feriez-vous ? Et on nous fait visiter un endroit où on a d'ailleurs eu quelques soucis parce qu'on n'avait pas le droit de prendre des photos, on ne savait pas. Et on nous a retiré les pellicules, sauf celle-ci. Et c'était en fait des prisonniers politiques qui étaient là en train de travailler sur cette carrière. Or, cette carrière est tout à fait spectaculaire. Et ils étaient en train de prévoir l'abandon du site. Que pourrait-on faire ? Et la proposition que je faisais était celle-ci. Vous êtes, dans votre culture, capable d'importer un paysage de si loin pour le faire venir si près, vous pourriez le faire à l'échelle 1, finalement. Il suffirait d'avoir, en guise de carrier, un paysagiste. Si vous mettez à la tête de l'entreprise industrielle là qui dirige le prisonnier ou pas. Quelqu'un qui aura une idée de comment on la sculpte, on l'exploite en même temps qu'on fabrique un paysage. Bon, ça faisait partie donc des propositions qui allaient dans le sens d'une culture. Ils s'y attendaient pas du tout parce que faire le chemin à l'envers, c'était pas évident, sauf que c'était quand même très clair pour eux, puisqu'ils en avaient la gymnastique, même s'il était inverse. Donc on sait à quel point l'emprunt au paysage et sa lecture par les gens qui sont dans cette civilisation-là et atteint à un certain niveau d'abstraction dans certains cas. Et quand on regarde, un bonsaï pour nous, peut être un objet décoratif qu'on met sur la cheminée un peu comme ça légèrement, pour eux, c'est un paysage. Ça renvoie à quelque chose dans leur paysage immense, emprunté ici ou là en Chine. Si on met une pierre, ça c'est le plan du Ryohanji que tout le monde connaît, donc au Japon cette fois-ci, mais c'est le Japon est empreint de la culture chinoise. Si on met une pierre là, on a la montagne, les remous autour, c'est la mer qui s'agite, ça c'est la mer calme, mais l'homme est toujours, bien sûr, entre les deux. Vous avez la position du ciel, la position de la mer, et de la terre et la position de l'homme, ces trois éléments jouant tout le temps ensemble. On n'a même pas besoin de végétaux, Ryonji, il n'y en a pas, pour aborder la question du paysage. Ça, c'est le symbole si connu que je ne reviens pas dessus, si ce n'est pour dire qu'il ne se contente pas d'être dual, ce n'est pas seulement yin-yang, c'est le troisième souffle, comme dirait François Cheng, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'entend qu'à partir des deux, mais qui existe en tant que troisième. Je renvoie à la littérature de Cheng, évidemment. Là, nous sommes dans un pays qui, pareil, n'est-ce pas, utilise à la fois sa cosmologie la plus ancienne, son imaginaire le plus ancien de la création du monde, aussi bien la tortue Bedawang, la voilà, et le serpent Antaboga, qui donne le souffle de la vie. Il s'agit d'une civilisation polythéiste hindouiste à Bali. Mais avant ça, c'est-à-dire avant que l'hindouisme n'arrive, qui est un polythéisme venant d'Inde, il y avait, comme pour le Japon, les Kami, il y avait les esprits, il y avait des cultures anciennes. Et aujourd'hui encore, deux villages, qui s'appellent des Baliaga villages, se réclament de cette culture antérieure à une invasion culturelle, disons, du XIe siècle. Ils sont donc les premiers, si vous voulez, c'est ça qui est le plus important de leur point de vue. Donc on voit ici l'homme qui naît du souffle de la vie produit par le serpent. On retrouvera ça aussi bien chez les totémistes aborigènes d'Australie. Dans cette civilisation-là, le jardin, c'est ce que mon interprétation là pour le coup, est vertical. C'est-à-dire qu'il s'inspire aussi bien du lotus, la plante qui naît dans la boue, dont les feuilles se trouvent au niveau de l'eau, mais qui fleurit dans l'air. Il y a une tension verticale. Mais ici, c'est très clair. On a non seulement la mer, le bassin de lotus, mais la tortue Bedawang, ça c'est sa tête. Serpent Antaboga est représenté par ses multiples faces. On a donc le socle sur lequel repose le monde et la montagne. La montagne ici est le mont Agung, qui est le mont sacré, mais qui s'inspire, c'est la proposition hindouiste qui là-bas devient hindou-bouddhiste et qui est polythéiste, sur un socle animiste, quasiment. C'est sans doute même plus trouble que ça. C'est très intéressant parce que c'est extrêmement construit. Ça marche. Alors on a donc ici la porte qui est à un linteau. C'est une porte princière. On arrive à une maison noble. Si elle n'avait pas de linteau, on l'appellerait le chandi et ce serait une porte sacrée qui donne accès à un temple. Voilà le symbole. Pour habiter une maison à Bali, il faut aller poser au sommet en épi de fétale, au sommet de la maison, sur un dessin qui représente la syllabe Om et qui a à voir avec le lotus. Le mont Agung est ici. Il marque le paysage et dans cette île, quoi qu'il arrive, on indique le nord par rapport à ça, même si on ne se trouve pas du tout dans la direction du nord géographique. On dit que c'est ça, parce que c'est le repère principal, c'est le domaine des dieux, c'est celui où se trouve le temple le plus haut, le temple de Besaki. Voilà, il est visible de partout, qu'on soit dans les rizières ou qu'on n'y soit pas. Et il est mis en scénographie avancée, je dirais, dans des petits hôtels où on va faire des prières et où on va déposer des offrandes. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont évidemment remarquables. On est dans un processus analogique typique ici. Le temple de Besaki a une des plus grandes portes en Chandi. C'est la montagne qui s'ouvre en deux. En principe, ce sont les prêtres qui peuvent passer là. Sinon, pour les autres, c'est fermé. Mais enfin là, tout le monde peut y aller, les fidèles y vont. La hauteur qui revient au stupa, qui sont ces marches-là, indique le degré de sacralité, comme on le voit sur les et sur aussi les on peut dire les constructions artistiques, d'ailleurs très belles, qui servent lors de la cérémonie des morts. Il y en a aussi des beaucoup plus modestes, mais qui quand même sont tous, ça c'est destiné aux dieux, n'est-ce pas, et aux prêtres, qui sont quelquefois tout proches, comme ici au temple de Bedougoul, tout proches du niveau du sol et de l'eau. Alors que la porte profane, qui est la porte domestique, elle a un linteau d'abord, s'appelle le lawang, et un contre-mur. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que les esprits puissent pénétrer dans l'enceinte, qui s'appelle le natar, qui est un clos. Or, les esprits ne savent pas tourner les angles droits. Donc, ils ne peuvent pas rentrer, tout simplement. Et vous voyez, et ça c'est très important, la swastika, qui est c'est la croix, qui deviendra hélas, vous le savez, une croix gammée quand elle a des ailettes qui tournent, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, et qui est empruntée au monde de l'Inde. Seulement, il y a deux niches. Et ces niches-là, c'est une façon yin-yang de voir la chose aussi bien. C'est aussi bien pour honorer les dieux que les démons, parce qu'ils sont aussi honorables les uns que les autres. Parce qu'ils sont en nous. C'est subtil. Le plan de la maison qui est un jardin, voilà l'enclos. Et chaque élément est un bâtiment séparé. Ils sont tous séparés. Umameten, c'est là où se trouvent les parents, quelquefois avec les enfants, parce que les tout-petits sont élevés directement sur le corps des parents. Les invités, les aïeuls, le grenier, la cuisine et l'endroit où on stocke le riz. Le lawang avec le contre-mur, la ligne allée. Donc on rentre de cette façon. Mais ici se trouve le temple de famille et là on va honorer les dieux. Il est toujours situé au nord-est. Autrement dit, l'organisation spatiale, donc le paysage d'un village, est fait de telle sorte que c'est constitué par rapport au mont Agung. Et on ne peut pas se disposer autrement, ou alors on s'expose au pire. Le pire, c'est les léyaks, les mauvais esprits, qui peuvent venir vous déranger, vous empêcher de dormir et vous apporter les maladies, etc. Alors un lawang, peu importe, hein, il faut qu'il existe. Et peu importe si on peut passer à côté. Vous voyez, ça c'est un mur qui est un peu délabré, voilà d'ailleurs un goniari. En principe, les portes comme celle-ci sont faites pour l'accès aux espaces domestiques. Là, on est dans un cas de figure un peu différent. Je suis désolé, je m'aperçois que je vais accélérer. La technique des offrandes est très intéressante pour nous parce qu'il s'agit d'une activité artistique qui est donnée aux enfants, mais aussi à tous les autres, et qui est juste éphémère. Ça donne lieu à des objets tout à fait particuliers. Quelquefois, quand on ne peut pas les fabriquer soi-même, si ça prend trop de temps, on va au marché. Et on les dispose et on fait l'offrande aux dieux et aux démons. Et ici, c'est un endroit très dangereux puisque c'est un croisement. Toujours dangereux, un croisement. Ça va. Donc, on doit y déposer des offrandes que le chien attend. Parce que lui, il sait qu'il y a un peu de riz à manger là-dedans. Et on va faire des offrandes à la déesse des Wishris, qui est la déesse du riz. On ne s'occupe pas d'un paysage de rizière à Bali, ailleurs dans ces pays-là, comme on s'en occuperait en Louisiane ou je ne sais pas, en Camargue. Ça, c'est donc des offrandes faites directement sur l'autel, puis sur les pis de riz qui germent un peu avant la nouaison. C'est pour obtenir la fertilité. Le nombre de dieux là-bas est très compliqué. Un jour, j'avais demandé comment on faisait, etc., combien il y en avait. Enfin, je n'ai pas la peine de chercher. Non, c'était un prêtre qui m'avait dit non, il ne faut pas que vous vous intéressiez à ça, parce qu'il faut que vous sachiez. Et ça m'avait beaucoup touché, évidemment. Il faut juste, dans notre pensée à nous, il faut rendre l'autre heureux sur Terre. Donc, ils n'ont pas de paradis à proprement parler. Il s'agit de ce que les choses se fassent tout de suite. On ne peut pas, j'ai dû faire un jardin là-bas, et on ne peut pas le faire si on n'y a pas quelque part un hôtel pour honorer les dieux. Et voilà, c'était un jardin qui, malheureusement, a dû s'arrêter parce que le propriétaire est décédé. Mais il a fallu construire un hôtel comme celui-ci, pas tout à fait celui-là, qui permettait les rituels, les cérémonies qui sont souvent quotidiennes, et aussi planter un banyan, qui, lui, sera honoré. Un banyan sur lequel le Bouddha a médité, etc. Ça renvoie, c'est un paysage. Sur les Poem Bukit, là-bas, ça désigne un arbre qui est un banyan qu'on met sur une colline sacrée. Donc vous voyez ça de loin. Je n'ai pas de photo là, mais enfin, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire. Il y a d'ailleurs des petits hôtels pour les honorer, soit clos, soit ouverts. Et pourquoi ces paysages d'une si grande beauté plastique ne sont-ils pas construits? Jamais. Alors, on pourrait enlever l'eau et s'installer avec une maison. D'ailleurs, il y a des Européens qui l'ont fait, malgré la mise en enfin, c'est pas une interdiction tout à fait, mais enfin, disons, les hésitations des Balinais eux-mêmes qui leur disaient « mais ce n'est pas des lieux pour s'installer ». Parce que là, ce sont les layaks, ce sont les mauvais esprits. Et ça peut vous créer des dommages. Donc, il y a tout un paysage qui est celui des vallées et qui est entièrement protégé par une croyance. J'en viens au totémisme avec le monde australien, une tortue qui n'est peut-être pas la même que celle Bedawang de Bali, mais quand même le serpent qui donne la vie et qui prend plusieurs figures. Donc il y a quelque chose à voir, et l'Australie et Bali ne sont pas loin. Là, je n'ai pas de traces ni de certitude pour dire que l'un influençait l'autre, mais on est dans des rapports au monde qui sont antérieurs à tout ce qui a pu arriver comme civilisation par la suite à Bali comme en Australie. Il ne serait pas du tout anormal qu'il y ait des points communs. Là, on est dans un monde totalement extraordinaire qui nous échappe, à tel point que je me suis demandé si les aborigènes australiens n'exploitaient pas des parties du cerveau que nous n'exploitons pas. Ils communiquent entre eux de façon particulière, vous connaissez le champ des pistes, ils se donnent une géographie par la tonalité, par le chant, par autre chose. Et ils sont en rapport, comme je le disais, de façon totémique avec un certain système qui peut évoquer des paysages, des animaux ou des plantes. Et là, on voit par exemple le rêve du wallaby. Tout se passe par le rêve. Le wallaby, si nous dessinerions le parcours du wallaby ou le paysage du wallaby ou le wallaby lui-même autrement. Là, il s'agit du rêve du wallaby, mais aussi de sa géographie. Et pour les aborigènes australiens, tous ces points de repère, c'est un paysage précis. Ça veut dire qu'ils sont, je dirais, totémiquement parlant, ceux qui sont en rapport avec ce type de lecture-là, parce qu'il y en a beaucoup dans toute l'Australie, c'est un continent, ils vont tout de suite comprendre. C'est une clé de lecture que nous n'avons pas. Alors, le rêve de la carotte sauvage, qui devrait nous concerner en tant que jardiniers, pour nous, évidemment, nous en sentons très éloignés quand nous lisons ça. C'est le rêve de la carotte sauvage. Quand je suis allé dans ce pays pour voir comment, au fond, les choses se passaient sur le plan du paysage, de l'écologie et des jardins, je me suis trouvé avec des absences de jardins, pas de jardins du tout, et faits par les aborigènes. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit qu'on ne savait pas. Et de retour en France, j'ai fini par avoir une clé qui n'est peut-être pas la réponse absolue, mais je la donne tout de même. La traduction, ou l'écriture même d'un conte oral, dit la chose suivante, c'est un rêve et un poème. L'esprit rêve, l'esprit va voir la fourmi, voilà, la fourmi verte, qui rêve, qui sait rêver, mais qui ne sait pas se servir du secret du rêve. Fourmi totémique. Alors l'esprit va voir le wallaby dont on a parlé tout à l'heure, va voir le barramundi qui est un poisson, va voir etc. tout le monde et finit par arriver à l'homme qui lui sait rêver, mais il sait aussi se servir du secret du rêve. Et là l'esprit est fatigué, il se couche dans la terre. Et il est hors de question de toucher à ça. J'ai déjà parlé de ça lors de la séance inaugurale parce que ça me paraissait très important de le signaler en disant eh bien voilà une autre façon de voir le monde. S'il y a des façons tellement différentes de le voir, si on ne peut pas toucher à ça, si c'est très important, plus que le reste, de ne pas y toucher, ça remet en cause tout ce que nous croyons, nous. Je veux dire par là qu'une cosmogonie pourrait remettre en cause la totalité de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent au cours des 9 cours, plus tout le reste, notre civilisation. Pourquoi pas? Donc, je vais terminer, mais vous m'accordez, alors je suis désolé, je n'arrive pas à rester dans les temps, c'est trop dur. Encore 5 minutes pour achever sur le paysage mémoriel, c'est-à-dire comment nous voyons la mort, l'au-delà, Ça, on nous sommes sollicités là-dessus. Nous avons des commandes sur les cimetières, par exemple. Alors, en voilà un qui est austère et qui est d'une communauté religieuse d'un monastère en Normandie. Donc, on a quelque chose de silencieux. Ou protestant en Angleterre, ça se rapporte un peu. Il y a la présence des tombes avec les êtres et il y a une grande rigueur, comme dans les cimetières militaires. Ici, dans la Somme, avec aucune espèce de fioriture, mais un marquage au sol, parfois un numéro quand on n'a pas les noms, comme sur le monument de Lutyens, qui est un des plus étranges, qui est aussi une porte initiatique. Donc nous créons à la fois des espaces, ce sont des lieux où on enterre les gens, on va honorer leur mémoire, mais aussi des monuments. L'un de ceux qui m'a le plus étonné dans tout ce paysage de la Somme, hein, nous sommes dans la Somme ici encore, c'est celui des Sud-Africains où, paraît-il, c'est anecdotique, mais c'est assez touchant, on a replanté là deux allées de chênes à partir de chênes d'Afrique du Sud. Il n'y a pas de chênes en Afrique du Sud. Donc ça ne pouvait être que les chênes que les Français ont apportés après la révocation de l'édit de Nantes, qui sont partis dans les Pays-Bas avec leur Bible sous le bras, et hop, tout le monde est arrivé en Afrique du Sud, et ils sont, avec un clé de vigne aussi, hein, ils ont installé à Stellenbosch leur vignoble, ils ont planté des chênes pour pouvoir mettre les vins en tonneaux. Ça a été un désastre parce que ça pousse trop vite là-bas, et donc ils n'ont pas pu avoir du bon vin. Ils ont abandonné le bois de chêne venu du Limousin d'ailleurs. Mais les chênes ont continué à pousser. Ils sont revenus là. C'est incroyable. Hein, bon. Alors donc, il y a une manière plus ou moins austère ou plus ou moins baroque d'honorer les morts, la mémoire. Ça, c'est un cimetière au Guatemala, catholique. Enfin, le catholicisme au Guatemala, avec les... je dirais par les Indiens plutôt, et tout à fait artistique, il est intéressant. Hein. Ou à l'île de la Réunion, c'est un jardin. C'est un jardin avec des plantes que nous aimerions bien avoir dans nos jardins. Et là, il n'y a pas de névrose du désherbage, trop. Je signale quand même, et on l'a vu lors de la dernière fois, n'est-ce pas, que c'est dans les cimetières que les directions des espaces verts ne parviennent absolument pas à abandonner les produits toxiques. Ils peuvent partout ailleurs, en espace public, ils n'y arrivent pas là, quand ils en ont la responsabilité, parce que c'est mal vu, c'est mauvaise herbe. Bon, ainsi de suite, et là nous avions travaillé sur un mausolée, sur un marabout, sur la mosquée la plus à l'ouest dans la conquête de l'islam, un lieu qui s'appelle Ribat Shakir, et proposer un belvédère sur le lieu qui marque la mémoire des morts. Je montre une image, alors là, un peu plus chaotique, des cimetières berbères, où on ne prête pas attention à la nature organisée, où même il n'y a pas d'enclos, ce qui est très intéressant, ou au contraire à la mémoire toute simple, c'est-à-dire au sanctuaire et non pas forcément au tombeau, bien qu'on sache qu'en Égypte, ça c'est Abou Simbel, et il y ait, marquant le paysage définitivement dans les mémoires, les pyramides, que je ne montre même pas, ce n'est pas la peine. Mais parfois, il y a des tombeaux qui se résument à rien dans la vallée des rois, où il n'y a que des tombeaux. Et il y a juste, pour y accéder, trois marches et des chiens. Donc, ça dépend. Ça, c'est un cimetière balinais. À Bali, on brûle les morts. Et donc, il n'y a pas lieu de les enterrer. Mais quelquefois, on n'a pas l'argent. C'est très coûteux, une cérémonie. Alors, on les met temporairement dans une cocoterie. Quiconque passe là ne sait pas que c'est un cimetière. Et chacun sait, ceux à qui appartiennent les morts, bien sûr qu'ils vont pouvoir le retrouver, donc peu importe l'état dans lequel ils vont le retrouver, et ensuite faire la crémation, qui est une cérémonie très importante. Là, c'est un brahmane qui est brûlé parce que c'est la vache dorée et montre, signale que c'est ça. D'ailleurs, il a les stupas au-dessus de lui qui montrent bien la hauteur de sa caste, et c'est un prêtre pédanda, bon, et puis il sera brûlé donc, comme il le faut. Les collines sacrées où nous avons travaillé en Chine, cimetière là, pas de problème. Donc on est bien dans les collines sacrées en Corée, sont des tombeaux, tout à fait extravagants, hein, parce que c'est plastiquement extrêmement intéressant, c'est un paysage en soi. Et ça, c'est pour les princes. Les collines sacrées en Australie, c'est un rituel féminin à l'honneur du rêve des deux hommes. On pourrait dire aussi que ça évoque la poitrine féminine. C'est ces deux collines qui sont sacrées. J'arrive. Hein. Nous avons travaillé un peu sur les cimetières. Le cimetière du Palachais est un cimetière romantique où nous avons essayé, et ça a été très très dur, de faire accepter que les arbres poussent dans les tombes. Pourquoi est-ce qu'ils ne pousseraient pas dans les tombes? Ça, c'est l'histoire du désherbant. Hein. Bon, je passe là-dessus car la lutte existe toujours et on n'a pas gagné. Ici se trouve le cimetière de Grenelle avec le jardin blanc. Là, nous avons essayé, avec Patrick Berger, de faire une petite fenêtre donnant sur le cimetière. On n'a jamais pu. Et au départ, il y avait, comme un aling-aling, deux ouvertures latérales. Après, l'idée d'une fente qui donne sur l'allée de tilleul du cimetière. Et pourtant, la gestion des cimetières et celle des espaces verts était, à l'époque, venait d'être réunie. Et donc, c'est culturellement, il y a des blocages. Hein. Voilà, je termine sur ce projet-là, où nous avons dû travailler sur deux cimetières ici, plutôt Éneuilly, en leur donnant un caractère qui associe la promenade, qu'on appelle les Jardins de l'Arche, à ces deux lieux travaillés de façon très classique, parce qu'il y avait déjà un plan d'urbanisme, on va dire, le lotissement des tombes, avec leur rigueur. Il s'agissait de les accompagner pour donner un aspect moins minéral. Et ça a été des plans de plantation assez classiques, mais on y a introduit des merisiers et on peut voir des choses un peu, disons, plus heureuses que seulement des arbres taillés à partir, qui existent pourtant, à partir soit du pied de l'arche, soit de la promenade qui est une jetée et sous laquelle il existe un jardin qui est complètement différent de ces deux cimetières. Voilà les jardins de l'Arche et les cimetières qui sont à côté. Les jardins de l'Arche sont des jardins dans lesquels on doit tourner. On ne peut guère éviter de rencontrer la nature. On est dans un autre rapport. On n'est pas dans un lotissement de tombes, mais le minéral existe bien. Seulement, on lui donne un statut un peu heureux, plus organique, acceptant la mousse et acceptant les oiseaux qui viennent boire dans l'eau. Dernière image, celle-ci. Elle est arrivée il y a deux jours sur mon ordinateur. L'artiste Pascal Colrat se sert d'une phrase proposée par Dominique Trucot, qui est commissaire d'exposition et qui travaille avec tous les artistes, et extrait d'un livre que j'ai écrit il y a longtemps qui s'appelle « Thomas et le voyageur, être humain et le savoir ensemble ». C'est-à-dire, au fond, accepter l'idée que, peu importe la civilisation dans laquelle nous sommes, il est bon de savoir que nous participons tous d'un jardin, le jardin planétaire, et que rien que pour cette raison-là, nous sommes associés dans un système qui est celui de la vie, tout simplement. Ça veut dire la dépendance à notre biosphère. Ça veut dire aussi la dépendance à l'autre, tout simplement. Je voulais en terminer par là, mais avant, juste avant, lire, et c'est très court, cette phrase de François Cheng. D'expérience, je sais, on ne peut connaître sa propre meilleure part que grâce à la connaissance de la meilleure part de l'autre. Sa propre meilleure part s'épanouit d'autant au contact de la meilleure part de l'autre. Merci.